force, le temps avait été de son côté, travaillant pour lui, et, sous ses dehors plus ou moins paternes, Paul n'en avait pas démordu. On l'avait débarqué à Fridières à 17 ans, frette et moulu d'une scolarité indigente et d'un maigre début d'apprentissage en mécanique. Flanqué d'une Nicole sauvage, fruste et indignée, il s'en était accommodé. Nul ne l'avait empêché de faire de cette poignée d'hectares, 53, dont un bon quart de friches pentues à peine propices aux pérégrinations ovines, son royaume suffisant. Il s'accrocherait, il persisterait, il n'irait pas mendier ailleurs ce qui était là, comme sa part du monde, âpre, inventé, arraché chaque jour dans le travail qui maude le corps et fait passer la vie. La douceur de Paul, sa bonhomie placide, ne laissait aucune illusion. Il était du même sang que les oncles et la sœur, de la même race verticale. Quelque chose en lui ne pliait pas, ne plierait pas, même si, bien plus que dans les générations précédentes, les hommes de son temps se devaient de s'arranger avec les banques et les lois de l'économie entrée, pour n'en plus ressortir, en leur ancestral précaré, dans le riche sillage des primes et des injonctions de la politique agricole commune. Paul, par naturelle disposition, plus encore que par mûre décision, avait su se garder de la galopante amertume et de la plainte ressassée. Sa plaie vive avait été autre, le mordant ailleurs, du côté de l'enfant, du fils ou de la fille, de la créature de son sang qui ne serait pas, n'adviendrait pas. Rien ne serait transmis, continué, perpétué. Il n'y aurait pas de suite, c'était son mot, classé sans suite, l'affaire de Fridières. Comme il était dit au journal télévisé de certaines sagas criminelles, longtemps Paul avait senti s'enrager en lui, dans sa peau, ce vain désir de faire famille, de porter fruit. Qu'un enfant soit là pour grandir dans la maison et dans la cour, y jouer, y rire, s'y ennuyer, en partir, y revenir. Paul se savait capable de montrer le travail et d'accompagner pour faire comprendre du dedans de quoi il retournait, comment et pourquoi continuer ce métier du ventre, premier, hors d'âge. Cette certitude ardente et sans emploi avait pesé sur lui de toute son écrasante vacuité jusque dans sa 40e année. Ensuite, une sorte de soulagement lui était venu, il n'eut pas su dire en vertu de quelle infection souterraine. Il avait baissé la garde, il s'était apaisé, balayant d'un haussement d'épaule les sermons avanculaires et les jérémiades acides de la sœur. Son lot était là, à Fridières, et tant pis pour l'avenir, rien n'était grave, hors de vieillir sans douceur. Il s'inventerait une femme pour lui, il chercherait, il trouverait. Il avait trouvé Annette et embarquait Éric, sans qui Annette restait inaccessible. Il s'étonnait lui-même de cet accommodement raisonnable et témoignait sans difficulté à ce garçon qui ne deviendrait pas son fils une bienveillance ronde. Il n'était pas naïf et pressentait que l'obstacle surgirait moins en aval, du côté de l'enfant, qu'en amont, avec les oncles et Nicole. C'est pourquoi il avait réfléchi, conçu, agencé et manigancé, comme il savait le faire, en homme industrieux, rompu aux longs travaux de patience. Ils auraient beau les trois tournicoter, finasser, ruminer, tempêter et se caparaçonner dans un silence hostile, Annette viendrait, et si elle le voulait, elle resterait, creuserait sa trace. Ainsi la vit-on, dès le premier été, au potager, chapeauté de paille légère, cueillir petits pois et haricots verts, groseilles et framboises, ou autres légumes et fruits d'acabit divers, tâches qui rebutaient Nicole, et dont les oncles ne s'asquittaient plus qu'à grand-peine. Annette, patiente, silencieuse et zélée, les soulagea, introduite en ses fonctions par Paul, qui savait le territoire partiellement vacant. Les oncles ne protestèrent pas, se résignant avec magnanimité, et risquèrent même à la fin de la 2e saison quelques commentaires élogieux sur la constance d'Annette dans les fastidieuses cueillettes et sa persévérance dans la confection soignée de conserves destinées à la maisonnée. À l'automne, toute honte bue, ils vinrent à résipiscence devant des confitures de fruits rouges dont ils allèrent jusqu'à vanter à Lola les mérites éclatants qu'ils la jugèrent digne d'apprécier, preuves tartinées à l'appui. Après la première journée à Nevers en novembre, Annette avait souvent pensé aux mains de Paul, comme si elle les avait sues par cœur d'un seul coup. Le corps de Paul avait commencé avec ses mains, car il faudrait composer avec le corps de l'agriculteur. L'homme de l'annonce, Paul, composé faisait partie du lot de l'annonce. Composer signifiait tout, le jour, la nuit, la lessive et l'entremêlement, la nourriture et l'étreinte. Annette aimait ce vieux mot d'étreinte qui traînait dans les romans sentimentaux qu'elle lisait du temps de Didier, quand elle attendait Éric et juste après sa naissance, de vieux romans à couverture jaune et molle que lui prêtaient les sœurs, belles-sœurs et tantes de Didier, les femelles ahuries de cette tribu mâle. Elle avait gardé dans un coin d'elle ce mot, étreinte, et l'avait retrouvé au moment de Paul, intact et vieillot, à peine racorni, prêt à reprendre du service, avant de connaître Paul, de le voir en vrai pour la première fois à Nevers dans la lumière grise de novembre, tant qu'elles n'avaient encore à ruminer qu'une photo. Elles étaient rassurées avec la différence d'âge, ses 37 ans, les 46 de Paul, 9 ans de différence, presque 10, ça compte, surtout avec un métier qui use les personnes, les rabote et les plie. Quand elle était caissière au Leclerc à Bailleul, elle repérait tout de suite les paysans qui venaient aux courses une fois par semaine. Ils n'étaient ceux-là, ni nantis ni cossus, on le sentait aux achats qu'ils faisaient de nourriture peu dispendieuse, à des hésitations, à des coups d'œil subrepticement jetés aux chiffres affichés. Ils n'osaient aucune question, ne protestaient pas, et gardaient dans leur maintien une trace plus ou moins marquée de pesante.